baiser?
Non, ben j'ai rien manqué. Je veux dire, mais mes parents ne me donnaient pas ce que je voulais. Il a toujours fallu que je travaille, à part à ma fête puis à Noël, où ce que là, j'avais quand même là, des beaux cadeaux puis tout ça. Mais on va dire que c'était le milieu de l'été. J'avais déjà un vélo, il était encore bien correct. J'en voyais un plus beau. Mon ami n'avait eu un autre. Ben moi, je fonctionnais avec le vélo que j'avais, il était encore bon. Là.
Okay.
Si j'en voulais un, ben je le payais moi-même. D'ailleurs, depuis que j'ai 11 ans que je paye toutes mes affaires moi-même.
OK. Depuis que tu as 11 ans?
Oui, c'est ça, effectivement.
Mais tu sais, pourquoi je te pose cette question-là? Les meilleures chansons d'amour ont été écrites par des individus, que ce soit homme ou femme, qui souffraient le martyre du fait que l'être aimé avait sacré son camp. Les hommes d'affaires que j'ai rencontrés dans ma vie l'ont jamais vraiment eu facile au départ. C'est récurrent, ça. Quand je leur jase, quand j'en apprends un petit peu plus sur eux autres, c'est souvent des gens qui ont été dans la misère et se sont dit « Attends un peu, là, moi, je ne serai pas dans la misère toute ma vie. » Et ces gens-là se sont pris en main, se sont adjoints des gens qui étaient capables de les amener où est-ce qu'ils voulaient aller. Puis au travers de tout ça, ben, ils apprenaient des autres, faisaient des lectures. Tu nous parleras de tes lectures tantôt parce que je sais que tu en fais régulièrement. Mais ils se sont formés de cette façon-là en se disant, t'as peur, moi, je resterai pas dans la misère toute ma vie.
Effectivement. Bien, avec ça, c'est drôle, c'est quasiment comme si on avait préparé le discours, ce qui est loin d'être le cas. J'arrive ici, puis tu m'annonces ce sujet à mon entrée, mais je connais quand même assez bien.
T'as peur, vends pas toute ma recette. Là.
Mais c'est ça, moi, je me suis toujours dit, je veux plein de choses, ça me tente d'avoir, je sais pas, un 4 roues, je veux jouer au hockey. Il y a plein d'affaires que j'ai pas pu toujours faire au moment que je voulais.
Ouais.
Et puis, je me suis dit, je vais être, à cet âge-là, étant petit gars, je vais être le dernier de ma famille à ce que, mettons, j'aille à subir ça, on va dire. Sauf que là, présentement, où est-ce que je suis rendu là, je trouve que c'est vraiment la meilleure chose, que ton enfant veut quelque chose. « Hey, père, moi, je veux 20$. » Bon, tu lui donnes 20$, c'est fini, on n'en parle plus. T'es bien mieux à la place de le laisser penser, attendre, désirer ce qu'il veut. Puis quand il va l'avoir, un, il va vraiment l'apprécier, il va l'entretenir, il va y faire attention, puis il va le garder longtemps. Moi, je vois tellement, de par mon travail, de gens où ce que, justement, les enfants sont... Écoute, à un moment donné, Yannick, je vais avoir une maison, ça me vient l'idée comme ça. Il y a une petite fille... Il n'y a pas un animal qu'il n'y avait pas dans la maison. Là. La grenouille de Tellus, 2-3 oiseaux, la sorte de chien puis de chat que tu peux imaginer. Toutes des petites affaires, je pense qu'il y avait 8-10.
Elle avait un zoo.
À peu près. Puis quand je passe dans la salle de jeu, là, tu rouvrais la porte, puis le plancher était recouvert des plus beaux jouets que tu ne peux pas imaginer pour une petite fille de 4-5 ans. Fait que je dis, ah, t'as des beaux jouets puis tout ça. Ah, elle dit, ils sont pas vraiment ici mes jouets. Le gros garage double de la maison était sa vraie salle de jeu.
Okay? C'est incroyable.
Ça n'a aucun sens. On parle d'un enfant de 4-5 ans.
Ouais.
Je veux dire, moi, j'ai un filleul, il a 4 ans et demi. Quand je le vois, il est super content de me voir. À sa fête, j'y jette un beau cadeau durable puis qui va travailler son imagination. Pas un truc avec des lumières puis qui va plutôt le distraire.
Mm-hmm.
C'est ce que moi, je préfère faire. Puis en même temps, mais tu développes l'enfant, les gens qui vont dire « Ah ben je vais donner mon téléphone. » Tu sais, c'est sûr, tu vas vas faire un divertissement pour quelques secondes, quelques minutes, mais ça ne développera pas à cet enjeu. Ils ont besoin d'être manuels, de toucher puis de développer comment je pourrais dire, des sens, que c'est pas un écran qui va régler ça. Là. Okay? De la dextérité qu'on appelle. Alors, ça, c'est ce qu'il y en est. Puis moi, je pense que j'allais voir mon voisin étant un peu plus vieux. Puis j'ai dit, j'aimerais savoir ça. Mon père, il veut pas me l'acheter. Il me disait toujours ça. Il dit, quand tu vas l'avoir, tu vas plus l'apprécier. Puis là, maintenant, avec l'expérience de vie que j'ai, c'est ça qui fait que je suis la personne que je suis maintenant. Écoute, puis je vis quand même modestement, à part que j'aime les belles autos. Là, mais sinon, je suis pas du genre de personne à aller dans les magasins pour acheter toutes les bébelles puis les bibelots. Là.
Mais pourtant, tu sais, cet enfant-là là, qui a 5 ans là, pourrait dire dans 10 ans ou dans 15 ans qu'elle a eu la vie rêvée pour un enfant de 4-5 ans. Mais en même temps, est-ce que cet enfant-là va avoir appris justement à avoir un merveilleux monde imaginaire, à réfléchir par elle-même, à désirer des choses qu'elle ne peut pas avoir puis essayer de trouver les moyens pour y arriver, pour avoir ce truc-là? Tu sais, quand les parents sont là avant, ça l'aide beaucoup. Mmh. Mais pour certains, on n'a pas cette chance-là. Puis il faut se former par nous-mêmes. Et dans ton cas, ce que je trouve particulier, c'est qu'il n'y a pas personne qui t'a vraiment dit, là, ce qu'il faut que tu fasses, Simon, là, c'est qu'il faut que tu deviennes self-made man. Là. Donc, de te former par toi-même, ça vient vraiment de l'individu que tu es. Puis ça, c'est particulier.
Ah, exact. Bien, moi, je vois la vie peut-être différemment d'autres personnes à la base.
Ah, ben ça, je te le confirme.
OK. Ouais. Puis là.
T'es vraiment pas parfait.
Ben écoute, on prend le dire autant de toi, mais c'est peut-être pour ça que on a une bonne conversation.
Fait exact.
Que, écoute, fait que c'est ça. Fait que là, dans tout ça, moi, ce que j'ai remarqué souvent, c'est que les gens qui ont été gâtés vraiment étant plus jeunes, là, des enfants finalement, ben quelque part dans la vie, ils vont se faire dire non. Puis ils sont pas capables de le prendre. Puis ça, là, ça va tellement faire des... Il y a plein de dépressions maintenant, puis tout ça, je sais pas que c'est... C'est ça qui est à l'origine spécifiquement de ce qui peut arriver là, dans des problèmes de gens qui sont dépressifs. Là. C'est plate, mais il y a des phases qui vont arriver comme ça. Mais ces gens-là ne sont pas habitués de se faire dire non. Fait que la journée où est-ce qu'ils vont à l'école, ils ont une gardienne, ils vont à un parc, un camp d'été, qu'importe, puis ils n'ont pas ce qu'ils obtiennent, là, ils font une crise.
Mm-hmm.
Monsieur, madame, venez chercher votre enfant. On entend ça maintenant. Là. Mais avant, c'était pas de même. Là.
Non.
On sait, on a à peu près les mêmes âges. T'arrives, tu vas à l'école, ça fonctionne pas, t'arrives chez vous, tu dis à ton père, ta mère, écoute, le prof, il a fait telle affaire. Parfait. Il a bien fait. Organise-toi avec demain, mais que tu y retournes.
C'était comme ça, hein?
Ouais.
Nous autres, c'était comme ça. Puis les gens aussi, aujourd'hui, ils ont la mèche courte, là. Puis, tu sais, sans trop te faire rentrer dans ma vie, puis de même que les auditeurs, mais en même temps, je vais le faire. Pour donner un exemple, tu sais, quand on avait la chance, nous, d'avoir un autobus scolaire, puis être avec nos chums, on tenait pas en place dans l'autobus scolaire. Puis t'avais le chauffeur d'autobus qui, lui, était comme le gars qui buvait le plus dans le village, qui était chargé d'amener les enfants à l'école. Puis tout ce qu'il voulait, lui, c'était de livrer les enfants à l'école, puis après ça, sacrer son camp. Là, moi, mon gars, tu sais, il est excité d'être avec ses amis, puis je te parle de mon plus jeune, là, que tu connais très bien, puis il est excité d'être avec ses amis, puis il a mis les deux genoux sur le banc pour regarder ses amis à l'arrière.
Mm-hmm.
Puis le chauffeur d'autobus l'a remarqué. Et a dit, ben Isaac, t'as pas le droit de faire ça. Et Isaac a dit, OK, excusez-moi. Fait qu'il s'est rassis. Deux semaines plus tard, Isaac a 6 ans. Il s'en rappelle plus, lui, qui s'est fait avertir là, 2 semaines. Fait que ses amis sont en arrière. Fait qu'il est content, il se remet 2 genoux sur le banc, dépasse sa petite tête, puis il s'amuse avec ses amis. Le chauffeur, il donne une fiche. Là, moi, je reçois la fiche. Je me dis, ça n'a pas de bon sens, là. Là, je dis, Isaac, il te l'avait dit, là, tu sais. Puis là, je sais très bien que la prochaine étape, le 3e avertissement, c'est 3 jours, pas de transport scolaire, là. Moi, j'étais à Québec. Lui, il était avec sa mère en Beauce. Ben 2 semaines plus tard, qu'est-ce que tu penses qu'il arrive?
Il retient de son père, finalement.
Fiche. On lui donne une fiche. Puis là, j'aurais pu avoir cette réaction-là que les parents d'aujourd'hui ont, c'est-à-dire d'appeler à la compagnie d'autobus pour dire à quel point le chauffeur est intolérant. Là. C'est toujours bien des enfants de 6 ans. Mais je me dis, non, faut que mon enfant s'adapte au chauffeur d'autobus puis aux règles qui sont en place. Faut qu'il reste assis. Simon, j'ai fait quelque chose d'absolument atroce. Pour un père, là, j'ai fait quelque chose d'absolument atroce. Je t'ai-tu montré la photo?
Non,
parce qu'il faut
non,
dire ouais. qu'on a pris des photos, là. Parce qu'on avait le cœur qui flanchait, mais en même temps, on trouvait la situation très drôle. C'est que je l'ai fait marcher pendant à peu près, mettons, un demi-kilomètre. Mais un enfant de 6 ans qui se promène en Beauce dans un rang avec son parapluie pendant qu'il pleut sur un demi-kilomètre, puis on lui dit « ça va être comme ça pendant 3 jours », ça a été dur pour lui émotivement. Là. Tu sais, qu'on le suive en arrière en voiture, puis parce qu'il fallait quand même le surveiller, là, 6 ans, tu peux pas le laisser aller dans le rang. Mais j'ai l'impression que j'ai donné une leçon de vie qu'on ne donne plus aujourd'hui à nos enfants. Mm-hmm. Moi, je suis revenu un peu à la méthode ancienne parce que je me connais un peu, mon plus jeune me ressemble beaucoup, fait que je me suis dit « m'a le faire marcher, comme ça il va s'en souvenir toute sa vie, puis il va écouter le chauffeur d'autobus. Faut y aller selon ces règles-là maintenant.
Y a-tu eu un 3e avertissement? Ou...
C'était le 3e avertissement, c'était le moment où il y avait 3 jours où il pouvait pas prendre le transport scolaire. Puis là, vois-tu, ça fait à peu près 3 semaines, puis j'ai pas de nouvelles. Fait que pas de nouvelles, bonnes nouvelles, mais en même temps, tu sais, c'est ça.
C'est ça qu'il va à l'école à pied depuis 3 semaines.
Non. Il est dans l'autobus maintenant. Mais pour en revenir à notre discussion, c'est qu'aujourd'hui, on dirait que les enfants ne connaissent plus la valeur des choses.
Mm-hmm.
Puis je me demande qu'est-ce que ça va donner dans 20, dans 30, dans 40 ans. Tu sais, un enfant qui se fait dire non pour la première fois par son employeur quand il a 25 ans, ça va être atroce pour lui.
Mm-hmm.
Ça
Absolument.
Va être atroce. Un enfant qui va vouloir tout parce que, je sais pas moi, les conditions d'emploi sont super bonnes. Le taux de chômage est très, très bas. Les employeurs cherchent plein d'employés puis sont prêts à engager n'importe qui. Le jeune qui dit « Ouais, ben moi, en bas de 50 000, moi, je commence pas à travailler pour vous autres. » Mais là, le propriétaire d'entreprise va dire « Parce que t'as pas d'expérience. » « Ah, ben c'est ça, 50 000. » quand le gars va dire non, moi je te prends pas, tu t'en vas, il va prendre ça comme il va prendre ça comme un échec de vie, il va tu revenir en disant hey, j'ai peut-être mis ça trop haut.
Exact. Ouais, mais c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, c'est que les jeunes, ils ont pas été habitués de se faire dire non. Puis juste un exemple comme ça, si tu fais un cours de vente dans vie là, ben, ils vont te donner plein de trucs. Là, tu as le client qui va te demander « Ah, ça, penses-tu que je pourrais avoir ça? Ben, » écoute, on va le demander, pas de problème. Puis il prend. La vente, là, elle va se fermer quand il va dire non à un moment donné à quelque chose. Ouais. La limite est atteinte, non? Est-ce que tu es intéressé encore d'acheter les services ou pas? Ou d'acheter la maison? T'sais, on ne peut pas demander la souffleuse, la tondeuse, l'essence qui va dedans, puis que le vendeur il va venir la passer en plus à un moment donné. Il y a une limite à tout ça.
Mais ça arrive.
Ben, on en voit toutes les sortes, là, je veux dire.
Ouais. Hey, tu me raconteras ça tantôt. Donc, toi, ta première entreprise, c'était la tonte de pelouse. Fait que j'imagine que tout ça, ça a été fait dans l'ordre, là. TPS, TVQ, puis... Non, t'as pas ça en avant?
Je pense qu'il n'y en avait pas dans ce temps-là.
Ah, il n'y en avait pas? Ben c'était non, pas encore arrivé.
Ça fait tellement longtemps.
En avant, puis par la suite?
Mais c'est parce que... Moi, je suis indien dedans de moi, tu comprends?
Amérindien.
Amérindien, ouais, ouais. C'est ça.
Ouais. Mais eux autres aussi, quand ils ont des entreprises, il faut qu'ils payent leurs affaires.
J'ai fait les journaux.
Ouais.
Puis c'est ça, je veux dire, j'ai toujours travaillé. À 14 ans, je faisais du déménagement. Je travaillais 107 heures semaine, je pense.
OK.
OK, puis je faisais tout en même temps, là. Journal le matin où je trouvais un remplaçant si je pouvais pas. Puis j'administrais tout ça, là. La collecte, puis etc. Là, c'est sûr qu'il y a des périodes où, justement, quand je faisais 107 heures, oublie ça, là, ça, j'avais des gens qui me remplaçaient.
Ouais.
Mais j'ai toujours géré toute cette partie-là. Là, il y a une partie, à un moment donné, j'ai fini l'école, j'ai commencé à travailler pour d'autres personnes. Puis j'étais arrivé un jour où j'ai fait, OK, ouais, qu'est-ce que je peux faire de plus dans cette entreprise-là? Pas grand-chose. J'ai déjà atteint le max de ce que je pense qui est réalisable dans ce domaine-là.
Il y en a combien qui ne passent pas cette étape-là puis qui acceptent de travailler pour la même entreprise parce que les conditions salariales sont bonnes puis il y a une certaine sécurité d'emploi? Il y en a combien en pourcentage qui vont rester dans cette entreprise-là jusqu'à la fin de leur jour?
Ben écoute, à la limite, ils vont peut-être changer d'entreprise pour la même affaire.
Je me trompe-tu si je te dis que c'est la majorité des gens qui
95% à peu près. Mais
quand tu n'apprends plus rien... Quand tu n'as plus rien à amener de nouveau au niveau de la créativité,
t'es mort.
Au niveau des idées, t'es mort. Mm-hmm. Tu fais juste attendre la fin. Là.
C'est ça, exact. Tu sais, moi, je pense que les gens qui travaillent pour une entreprise, c'est extraordinaire. Je veux dire, on a plein de services, on a besoin de ces gens-là. Mais tu peux être 25 ans dans le même poste, conduire un chariot élévateur pour une compagnie XYZ dans un parc industriel. Si tu tripes, t'aimes ça, t'as des écouteurs, je sais que t'es pas supposé par la SNES, là, mais puis tu te fais du fun, puis tu t'épanouis là-dedans. Fine. C'est ça que tu veux faire.
Ouais.
T'aimes ça, faire ça. OK? Tu peux être la personne qui est à la caisse chez Métro, puis bonjour, M. Marceau, bonjour, M. Tremblay, puis pour toi, là, tu vas passer de l'épicerie de ta journée, 5 jours, semaine, 40...
Ouais, mais tu trouves ton compte, tu jases.
T'aimes ça, c'est ça. Ouais. Ben, t'as des gens qui vont vouloir faire ça. Tu sais, moi, ma mère est retraitée du gouvernement, puis elle avait pas fini de travailler de son poste au gouvernement. Puis elle est allée travailler dans un Subway pendant une dizaine d'années parce qu'elle voulait voir du monde. OK? C'était ça qu'elle.
Elle avait besoin d'autre chose.
C'est ça. Elle voulait plus travailler dans un bureau avec les 12 mêmes personnes qu'elle rencontre chaque jour. Elle, elle voulait voir du monde différent. Elle n'avait pas besoin de faire ça. Elle n'était pas obligée de le faire. Mais pour elle, c'était un épanouissement différent.
Ah ouais, fait qu'elle était retraitée du gouvernement. Fait que c'est probablement de ta mère que tu tiens ça, là, tu sais, de toujours vouloir progresser puis d'avancer. Elle était retraitée du gouvernement, puis après ça, ben, elle voulait juste faire une coupe d'années dans le service à la clientèle, t'allais travailler dans un Subway.
Mmh. Ouais, ben, je dirais qu'en général, l'ensemble de ma famille, là, que ce soit les oncles, les tantes.
Ben, moi, j'ai connu un de tes oncles, je pense que c'est un soudeur, ça se peut-tu?
Ouais, ça, là.
Ouais.
Il est pas mal dans le même
pattern. Il est de ta famille.
Il est pas mal dans le même pattern, là, puis on a toujours de la reconnaissance des gens pour qui on va avoir donné un service, là.
Ouais.
Fait que, c'est sûr, mais ça vient à ça. Si t'es passionné, tu vas avoir le résultat. Tu vois, de mon oncle Jean-Guy, puis écoute, ce gars-là, là, il va te fabriquer n'importe quoi à partir de rien. Puis quand il va avoir fini, il va te donner les clés, puis tout va être impeccable. Ça va être juste wow. Mais tu sais, le gars, il trippe.
Ouais. Okay. Exact. Mais oui, je pense qu'il y a 95% des gens qui vont rester dans une job qu'ils n'aiment pas parce que la paye est bonne puis parce que les boss les font pas trop suer. Mais à un moment donné, j'ai l'impression... Tu sais, si ces gens-là... Moi, je l'ai fait là, le step, là, il y a de ça quelques mois. ça fait tellement du bien là, de redécouvrir que tu arrives dans une entreprise, les gens t'écoutent, sont prêts à accepter tes idées. Puis parfois, les idées passent pas, mais au moins, ils les acceptent, ils les reçoivent. Puis des fois, ben, les idées passent, puis ça fait leur petit bout de chemin. Rendre hommage aux militaires, c'était pas quelque chose qu'on faisait régulièrement à Boulevard par les années passées. Puis quand j'ai commencé à en parler, Red, je dis, ben oui, tu sais, mon père est militaire, c'est une journée super importante, puis on a fait une journée militaire. Avant, c'était pas comme ça. Avant, on était dirigé par Montréal ou on était dirigé par Toronto pour ce qui est des stations de radio. Là. Puis ben aujourd'hui, ben, les propriétaires sont sur place puis ils te disent, hey, si vous avez des idées, on reçoit ces idées-là. Ben, moi, qu'est-ce que ça me dit comme signal? Ça veut dire, attends un peu, là, moi, là, je suis encore ici pour des centaines d'années. Là. Attends un peu, je peux te donner mes idées, je vais me sentir écouté. Je peux faire progresser l'entreprise. Parfois, j'ai des idées qui iront pas vraiment loin, mais parfois, mes idées peuvent faire du chemin. Faire une différence dans la vie, Simon. Mm-hmm. Il y en a qui... Faire une différence ou pas pour leur patron, ça leur dérange pas. Je trouve ça particulier. Comment ces gens-là font pour se sentir en vie? Ils trouvent-tu leur compte ailleurs?
Mais l'idée aussi dans tout ça, c'est qu'il faut que la personne avec qui tu travailles est prête à recevoir, justement, comme tu expliques, ton idée. Parce que tu as des gens qui, eux autres... Ils veulent vraiment faire avancer l'entreprise, sont employés, puis peut-être même à un niveau supérieur à leur employeur. Ça, c'est... si on est rendu là, je pense que tu as une réflexion à faire. Mm-hmm. Si toi, tu es l'employé, puis tu veux que la business progresse plus que ton employeur, tu as deux choix. Tu t'en vas pour travailler pour quelqu'un d'autre ou tu décides de partir ta propre entreprise dans ce domaine-là parce que tu es vraiment passionné. Puis tu sais que tu vas réussir.
Oui. Ben, tu sais, ce que tu parles, c'est le principe de Peter, là. C'est-à-dire que tu vas monter des paliers là, dans l'entreprise, mais à un moment donné, tu vas trouver ton mur. Mm-hmm. Puis tu ne pourras plus progresser. Puis à ce moment-là, tu vas atteindre ton degré d'incompétence. Et ça, la plupart des dirigeants, un jour, vont pogner ce fameux mur-là. L'idéal, c'est de toujours progresser, là, puis de dire, t'as peu, oui, c'est un mur que je suis en train de pogner là, là, mais il faut que je step up encore plus. Donc, peut-être aller chercher de la formation, peut-être avoir des gens qui sont autour de nous qui peuvent nous aider à franchir ce mur-là. Mais ce que tu penses, c'est le principe de Peter. Puis je le trouve franchement intéressant, ce principe-là, parce qu'à partir du moment où tu sais que ça existe, d'un, tu es capable de voir tes patrons qui ont atteint ce principe-là. Mais de deux, toi aussi, quand ça va t'arriver, tu vas pouvoir aller voir des gens autour de toi qui vont peut-être pouvoir t'aider pour grimper ce step-là que tu n'es pas capable d'avoir. OK. Tu as travaillé, par la suite, tu as travaillé dans la vente, c'est ça? Tu vends des motos?
Bien, ça, récréatif, autrement dit, tout ce qui était plein air, moto, VTT, motoneige. Puis à partir de ce moment-là, ben écoute, là, tu apprends encore... différentes avenues parce que là, je me retrouvais. Avant, moi, j'étais habitué d'aller cogner aux portes pour aller chercher un client. Là.
Ouais.
Tu sais, veux-tu faire ton gazon? Ça te tente de t'abonner au journal? Tu sais, ouais. Étant adolescent, si on veut.
Là, c'était différent.
Ben oui, là, tu es en l'air du comptoir, puis là, je travaille pour quelqu'un. Ça m'était jamais arrivé vraiment. Là. OK. Tu sais, je faisais déménagement, c'est un job, tu vas faire un contrat, tu fais des affaires. C'est pas un job très compliqué de réflexion, ouais, si on veut. Tu essaies de pas briser rien, puis c'est pas mal ça. Tandis que là, il y a un client qui arrive, puis il vient me porter son bien. Puis là, ben il faut que tu t'en occupes. OK? Si ça, c'était au service, puis aux pièces. Puis d'un autre côté, les ventes, ben là, ils veulent en acheter un, etc. Mais c'est toujours des gens qui viennent à ta porte pour demander quelque chose. Fait que ça, c'est pas très compliqué parce que le client vient à toi. Il te reste juste de bien, ben cerner, probablement, c'est un client sérieux. Bien lui répondre, bien le servir. Puis ce client-là, il va toujours revenir te voir. Tandis qu'en immobilier, oui, il y a beaucoup de gens qui vont venir à nous. Mais par contre... Quand tu commences là-dedans, tu n'as pas de réputation, tu as zéro. Tu as des cartes d'affaires, tu as des pancartes, tout est neuf, c'est ça chaîne, mais le téléphone, il ne sonne pas beaucoup.
Ouais.
Fait que là, l'idée, c'est qu'il faut que tu ailles de l'avant. Hey, Yannick, je suis rendu courtier, donne une coupe de cartes, écoute, tu connais des gens, etc. Tu vas voir des gens, tu passes dans une rue, il y a une pancarte à vendre, Canadian Tower, rouge et noir. Tu lèves le téléphone, tu l'appelles, oui, bonjour monsieur, je suis courtier immobilier dans votre secteur, sérieux intéressé. Tu vas chercher les gens chez eux. Puis non seulement tu vas les chercher chez eux, mais c'est leur plus gros investissement généralement pour presque 100% d'eux autres. C'est leur maison.
Sur 100 appels que tu fais, combien d'appels par jour? Une centaine peut-être?
Ben, ça dépend comment on calcule les appels pourquoi, mais ouais. C'est sûr que les appels, ils doivent en avoir...
Mais des appels pour, je sais pas, pour avoir des rendez-vous avec des individus pour vendre leur maison.
Ah, du développement, ça dépend. J'en fais moins qu'avant parce que je veux pas là, beaucoup de choses dépendent de moi puis j'ai énormément de retours.
Ouais.
Je peux arriver au bureau puis j'en ai 4-5 qui appellent des fois qui veulent vendre leur propriété. Mais Moi, l'idée là, du développement, j'en fais toujours. Au pire, je vais en faire juste 10. Puis si je suis capable d'en faire 50, tant mieux.
Parce que moi, ce que je trouve incroyable, parce que j'ai eu la chance de te voir aller justement dans ton fameux bureau là, qui est digne des plus grands PDG de la planète. En fait, non. C'est quoi? C'est 1 mètre par 1 mètre à peu près, puis tu travailles debout. Ça ressemble beaucoup à un garde-robe.
5 par 5.
5 par 5?
En fait, c'est pour que la...
C'est 5 pieds par 5 pieds?
Oui, c'est pour que la pocket door puisse rentrer dans le mur. C'est pour ça qu'il y a cette dimension-là, le bureau.
Voilà. Mais c'est assez surprenant de te voir travailler là-dedans. Mais anyway, tu travailles debout, tu es avec ton casque téléphonique, puis de te voir appeler régulièrement des clients, des nouveaux clients à qui tu n'as jamais parlé. Tu dis « Bonjour, c'est Simon Laberge. Vous avez une maison à tel endroit. Est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on se rencontre pour une possibilité de la vente, des clients qui sont dans votre secteur. T'as une façon de faire qui est... moi, j'ai rarement vu ça, là. Parce que moi, après 2-3 appels où je me fais dire « Appelle-moi plus, t'as bordé! » C'est sûr que je vais être hésitant à appeler le quatrième, là. Tu comprends?
Mais c'est de la méthode que je le fais que ça n'arrive pas vraiment, ça.
Ça n'arrive pas.
Ben non, parce que moi, comment je vais faire ça? C'est pas compliqué, là. La personne, bon, écoute, peut-être qu'elle veut plus vendre, peut-être qu'elle veut vendre, qu'importe, j'appelle quelqu'un. L'idée, c'est que on crée une relation. C'est sûr que ça sera pas mon ami pour aller souper samedi soir, mais il faut qu'il y ait un lien tissé, puis on crée une confiance. Ça marche? Moi, il y a des gens que des fois, j'ai appelés, eux, ils n'ont pas fait affaire avec moi, mettons, parce qu'ils avaient déjà peut-être vendu la propriété, ou ils vendent plus, ou qu'importe, ils sont pas intéressés de vendre. Je reçois des appels des fois. Oui, bonjour, c'est Marceau, je suis référé par tel monsieur, telle madame. OK, oui. Ben écoute, ils n'ont pas fait affaire avec toi, mais tu les avais appelés, mettons, l'an passé, puis ils avaient quand même conservé tes coordonnées.
Puis ils te rappellent.
Parce que tu as été la personne qui semblait le plus professionnel. Okay. Ça, c'est le fun d'entendre ça. Ça, là, c'est plus que de l'argent, là. Puis c'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Des fois, ils disent « Ah, tu sais, Simon, t'as un bon revenu basse, correct. » Mais ça vient avec. Tu commences pas à dire « Je m'installe, je vais être courtier, puis moi, je vais faire 100 000 par année. » Tu feras pas une scène. Si tu penses comme ça, là, ça n'arrivera jamais. Les efforts, la passion, puis le travail vont amener tes résultats. Puis il n'y a pas de limite dans n'importe quel domaine. Si tu utilises cette recette-là, ça va toujours mener à une grande réussite, là.
Si les gens qui nous écoutent ont l'impression qu'on a passé un certain segment là, avant d'en arriver à la vente de maison, c'est Simon Laberge. Si vous le laissez aller, ça se peut qu'il vous amène sur plein d'autres affaires. là, tu vendais des motos?
Yes.
Tu étais dans le monde, le merveilleux monde de la moto. Qu'est-ce qui t'a amené par la suite à l'immobilier? Hein? Pourquoi tu as décidé de t'en aller en immobilier?
Ben écoute, c'est pas compliqué, là. La base, c'était pas ça, là. C'est que le monde de la moto, justement, c'est le domaine où je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux faire de plus ici? J'ai toujours voulu apprendre anglais, fait que j'ai été apprendre anglais, puis quand que j'ai, à un moment donné, je suis repassé, j'ai dit, bon, OK, là, je fais quoi maintenant?
Mais t'étais apprendre l'anglais où, là?
J'ai été en Floride, vu que c'était plus chaud un peu l'hiver.
OK. Pendant combien de temps t'étais là?
Bon, on pourrait dire, étendu sur une période d'après 2 ans, grosso modo, là. Puis c'est ça, fait que là, en revenant de là, à un moment donné...
Qu'est-ce que tu faisais là-bas?
Il y avait le
Qu'est-ce que tu faisais en Floride?
Profiter de la température. Oh, qu'est-ce que tu ferais là-bas, toi?
Ben moi, j'ai travaillé en Floride. J'ai été handyman. J'ai fait des clôtures. J'ai fait des gazons. J'ai peinturé des bateaux au spray, là. J'ai peinturé des bateaux au spray. Puis sinon, à Atlanta, je travaillais dans un restaurant puis dans un bar.
OK. Mais c'est ça. Fait que moi, je profitais de ce qui se passait là-bas. Mais écoute, là, l'idée, c'est qu'à un moment donné... J'arrive à faire une histoire longue, courte. Tu retournes pas chez tes parents quand ça fait un bout de temps que t'es pas là. Ben tu peux y aller quelques jours, une fin de semaine, une semaine. Et là, ça commence à être différent un peu. Fait que là, à un moment donné, bon, je vais peut-être aller en Alberta voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Tu sais, l'économie, ça semble être un petit boom. Puis tout ça, je voulais peut-être aller m'établir dans une place qu'il y aurait de l'argent à faire. Là. Mais là, il fait frette là-bas. Hein, que... J'ai jamais été, etc. Puis je prends le journal parce que dans ce temps-là, c'était encore à mode. Puis mes parents, ben, ils étaient abonnés. Je tournais les pages. Puis à un moment donné, je vois ça, un carré, ça dit « Ah, courtier immobilier, ça fait si longtemps que ça me tracasse. Là. Ça me tente de le faire. » Mais moi, j'ai l'air d'avoir à peu près 28 ans comme c'est là. Puis j'avais l'air d'avoir 15 à 20 ans, puis peut-être 12. Okay?
T'as de l'air jeune, tu sais.
Exactement. Et puis,
ça te nuit quand t'as 18 ans, mais ça t'aide quand t'as 50.
C'est ça, exact. Fait que là, qu'est-ce qui arrive, c'est que je regarde là-dedans, je me check dans le miroir, je serais peut-être pas pire. Fait que j'appelle le numéro sur l'annonce, une dame qui me répond. Elle dit, le cours, je pense, c'est aux alentours de la mi-novembre, puis là, on est le début novembre. Fait que j'ai dit, regardez, moi, je suis vraiment intéressé, tout ça. Elle dit, bien, vous avez juste appelé, vous inscrire, puis il n'y a pas de problème. Fait que je m'inscris là. J'ai mon permis depuis mars 2007. Puis ça n'a pas été plus compliqué que ça pour commencer à avoir le cours.
Moi. À ce moment-là, c'était combien de temps le cours?
Ben écoute, on avait en plus, si on va de mi-novembre environ, je pense que le résultat, j'avais eu le permis le 19 mars. Fait que quand ça allait assez vite.
Ouais.
Puis il y avait quasiment un mois de congé durant le temps des fêtes. Écoute, et comment je pourrais bien dire, t'es là, tu te dis, il y a quoi à faire un gars comme moi, il faut que je fasse de quoi? Là.
Ben oui.
Fait que... Là, je m'étais trouvé un petit emploi à temps partiel, un petit pub, là, juste pour... vu que c'était l'horaire, c'était le soir pour la fin de semaine, là, parce mm-hmm. que sinon, on allait à l'école. Là. C'était la fin de semaine. Samedi, vendredi... C'est dimanche... Enfin, vendredi, samedi. Puis la semaine, c'était l'école le lundi au jeudi. Fait que là, moi, ça m'occupait. Sinon, c'était long un peu. Puis c'est ça. Fait que ça, ça a été vraiment une expérience, le fun, parce que là, j'ai comme grandi dans un monde de « je retourne à l'école ». Puis moi, l'école, là, ça n'a jamais été mon fort ben-ben, là. T'sais, ben des entrepreneurs là, sont entrepreneurs parce qu'ils n'aiment pas vraiment se faire dire quoi faire. Fait que quand tu vas à l'école, ben c'est OK, lis-moi ces 25 pages-là, puis mets-moi un résumé selon la philosophie.
Pour ce que toi, tu voulais faire, ça manquait de pertinence.
Exact. Ouais, j'ai été au cégep un petit peu, mais écoute, j'ai fait quelques sessions. Il y avait la taxe à l'échec dans ce temps-là. Je pense que c'était le PQ qui était là.
Ouais.
Là, tu manquais un cours, c'était 2$. Là, tu arrivais, écoute, ça me coûte 300$. Je ne veux même pas y aller. Puis là, il faut que je paye pour retourner. Fait qu'une session, tu payes. L'autre session après ça. Puis là, je travaillais à 3-4 places en même temps, cégep puis Alouette. Là. Fait que j'ai dit, en sciences humaines, je vais faire quoi? Je sais même pas. C'était juste pour finir d'avoir des études, on dirait. Mm-hmm. Que j'ai tout laissé ça de côté. Puis là, je suis retourné, mais là, c'était dans le but que là, ça me tentait de faire ça. Là. Fait que là, j'ai terminé le cours. Et les résultats de ça, c'était parfait. Puis en commençant, ben moi, comment je pourrais dire, à l'inverse de ce que les gens, ils prennent tout le temps ce qu'il y a de plus facile. Là, il y a leurs amis, puis ils vont voir. Moi, j'ai pas annoncé à personne de mon entourage que j'étais courtier. Il y en a qui le savaient, là. Mais d'habitude, tu envoies une lettre à tes contacts comme le premier jour, puis tu relances 2-3 mois après, puis tu dis que... Puis là, tu espères qu'il y en ait un ou deux qui t'appellent pour que ça... Moi, j'ai pas fait ça, là. Moi, j'ai attendu que ça fasse un an, puis là, j'ai envoyé la lettre.
OK.
Pour dire que... Parce que l'idée, moi, je veux pas arriver, puis... Mettons, avec mon oncle, ma tante, un ami, tu sais, tu commences. Je vais aller voir un peu, puis je vais... Ça va être facile. Je vais dire, crème, je suis bon, il y a ça. J'ai tout de suite un client, ça fait 2 semaines, je suis courtier.
Exact.
J'ai vendu une maison à mon cousin, j'ai vendu à un ami de secondaire ou qu'importe. Fait moi, j'ai commencé vraiment, puis ce qui est le plus drôle là-dedans, là, c'est que actuellement j'ai une maison à vendre de mon deuxième téléphone à vie, le même client.
Puis tu t'en souviens encore?
Oui, oui, absolument. Puis je me rappelle exactement qu'est-ce qu'il m'avait dit.
Ça date de combien de temps, ça? Ton premier client?
19 mars 2007. Non, je l'ai appelé. Le deuxième téléphone, au début, il m'a pas dit « Simon, je fais affaire avec toi.
Ouais. »
Mais le premier téléphone que j'ai fait, ça a été un téléphone qui a mené nulle part. Le deuxième, là, le monsieur, il m'a répondu, puis il avait une attitude assez particulière. Là, on peut pas en parler, mais là, il me dit « Non, non, je veux rien savoir. » Puis en tout cas, qu'importe. Fait que ça reste comme ça, mais moi, vu que je suis persévérant, je l'ai rappelé. Puis... Là, c'est ça. Fait que présentement, là, j'ai une propriété à vendre du deuxième téléphone que j'ai fait. Fait que, puis le premier téléphone que j'ai eu avec cette personne-là, c'était pas un téléphone qui était positif pour moi. Moi, ça me dérange pas. Moi, je m'en viens me faire du bagage. Là. Je suis en train de me bâtir un mois en immobilier. C'était ça l'idée. Fait que c'est sûr que si j'aurais été assis dans mon coin, comme bien du monde, ils vont faire quand ils lancent une entreprise, puis ils disent « Ah, ben, je me rouvre un restaurant, tous mes amis vont venir manger. » C'est pas ça, là. C'est pas de même. Ça marche pas en tout. Fais de la pub, arrange-toi pour qu'il y ait du monde qui vienne, puis après ça, tes chums vont venir, vont être contents d'aller t'encourager, ça marche. Mais il y a des jaloux d'envie aussi, faut pas oublier ça.
Oui, c'est sûr, c'est fait sûr. Que,
okay. Faut pas se fier à ça, là, qu'importe le domaine.
Puis la réception, là, tu disais tantôt, faut créer un lien avec l'individu, mm-hmm. parce que moi, mon appréhension pour faire des cold calls, mettons, je veux pas être agent immobilier, là, mais ma première appréhension pour faire des cold calls, c'est de me faire envoyer promener à longueur de journée. T'sais. Tous ceux qui ont déjà travaillé pour le service à la clientèle, que surtout au téléphone, là, parce que les gens ils n'ont pas l'impression que tu es en phase 2, fait qu'ils peuvent se permettre de dire n'importe quoi. Mais même des fois, en restauration, travailler dans les bars, des restaurants, des fois, tu apprends à détester le monde quand tu travailles dans le service à la clientèle. Mm-hmm. Quand tu es agent immobilier, faut que tu sois fait fort, là, parce que tu as plusieurs noms. En fait, tu as majoritairement des noms pendant toute ta carrière.
Oui, je sais, mais ça, c'est ce qui fait justement que tu te bâtis puis tu grandis avec ça. Ça te donne... une idée, puis ça dit où est-ce que les gens ils sont actuellement. Si tu n'es fait jamais les appels, tu peux pas connaître le pouls de la population, de l'environnement.
Ouais.
Puis de la façon que je vais discuter avec les gens, j'ai pas de monde qui sont pas contents. Là. De toute façon, je me aperçois des fois où est-ce qu'ils sont dans leur mood. Oui, bonjour, monsieur, madame. Bon, écoutez, là, ils commencent à me répondre. Moi, c'est un premier contact que je fais avec vous. Permettez-moi de vous laisser mes coordonnées. Puis quand vous allez être prêt, ben, redonnez-moi un coup de fil pour on pourra regarder ensemble. Là, ils sont tous contents, ils sont rassurés. Ce qui arrive souvent, c'est que la journée ou la semaine d'avant, ou l'appel d'avant qu'ils ont eu, il y a quelqu'un qui a appelé, qui était désespéré, puis il a tellement cogné sur le clou qu'ils n'ont plus de patience pour ça.
Ouais.
Fait que c'est pour ça qu'ils sont à ce niveau-là. Et toi, Yannick, tu vas arriver, tu vas vivre une expérience qui peut être négative pour quelqu'un, parce que ça fait tellement de fois qu'ils subissent cette expérience-là que toi, tu vas l'apprendre, tu vas apprendre en rien, tu vas dire « Caroline, as-tu vu qu'est-ce qui vient de m'arriver? » C'est un peu... Puis là, tu vas dire « Bon, c'est une joke, c'est pas grave, c'est fait. » Quelqu'un qui te répond, tu t'en vas au centre d'achat, puis là, tu demandes à la caissière, puis elle est brusque avec toi, tu vas dire, bon, elle a passé une mauvaise journée. C'est à toutes les fois que tu vas au centre d'achat, puis ça t'arrive, tu vas dire, coudon.
Ah, moi, je suis vraiment comme ça. Là. Moi, c'est un reset constamment, mm-hmm. tout le temps. Mais le téléphone, puis en jasant avec des courtiers là, régulièrement dans les derniers mois, le téléphone, ça semble être une problématique pour la plupart des courtiers. Mais toi, je te regarde dès travailler, puis écoute, le téléphone, c'était comme si tu jasais avec moi, puis tu prenais une Coors Light.
Mm-hmm. Ben, effectivement.
Tout à fait normal. Là.
Absolument. Ben,
c'est comme la prolongation de ta main. Là.
Effectivement, la seule affaire, c'est que toi puis moi qui prends de la Coors Light, ça arrive vraiment pas assez souvent. On remettra exact. Ça sur l'horaire pour le temps des fêtes.
Ouais.
Mais, écoute, j'ai une photo de moi, je pense que je dois avoir même pas 2 ans. Puis tu sais, dans les vieux divans, hein, tu sais, tout carotté, plein de couleurs. Ouais. Là, tu t'en rappelles de ça, toi aussi, ouais. Tu en avais un chez vous?
L'odeur de cigarette est imprégnée dedans.
Ben oui, puis il y avait bu 2 doses, tu sais. Ouais. C'est ça. Ben j'ai une photo, je suis au téléphone. OK?
OK.
Ça, je pense que c'est un présage peut-être de ça. Là.
Ah, peut-être.
Avec une roulette beige, là. Quand quelqu'un rentrait chez vous, tu avais juste à prendre ça puis tu pouvais te défendre avec. Là. Que...
Ça a pris combien de temps avant que tu sois capable de tirer un salaire en immobilier? Parce que, encore là, quand je jase avec des courtiers, des fois, au départ, là, ils ont besoin de l'argent, du love money qu'on appelle. Là.
Mm-hmm.
Ça a pris combien de temps, toi, avant que tu sois capable de vivre de tes propres ailes?
Ben moi, en fait, c'est que vu que j'avais commencé...
Voler de tes propres ailes, oui.
J'avais commencé plus tôt, j'avais déjà de l'argent pour lancer mon entreprise. Je dirais que ça s'est fait en étapes. Écoute, c'est pas compliqué. Là. Au début, tu commences, t'as à peu près rien qui importe, t'es bon ou t'es pas bon. Là. Tu peux pas arriver le jour 1, t'as pas fait de promesse d'achat, t'as pas vendu rien, fait que t'as pas de revenus. Là. Mettons 2-3 mois après, il y a une activité concrète qui va se passer. Peut-être 6 mois après ton début, là, tu vas avoir un chèque. Fait que souvent, ton 0 à 6 mois
après ton début, tu vas avoir le premier chèque.
Ben, c'est souvent ça. Fait que, puis souvent, il y a des gens qui se rendent pas compte de ça. Qu'est-ce qui arrive? C'est que les courtiers qui n'ont pas eu les fonds nécessaires vont vivre sur leur marge de crédit. Puis souvent, ces marges-là, ils vont s'étirer sur des années parce qu'ils font pas un million par année. Là, t'sais, là ils recouvrent ça. Maintenant, t'es un gadon, j'avais de l'impôt à payer. Puis TPS, TVQ, c'est vrai, c'est pas mon argent, c'est pas du type, on se comprend. Fait que l'idée, c'est que ces gens-là se trouvent à attirer une dette des fois qui va durer très longtemps. C'est un peu comme une dette d'études, sauf que tu apprends sur le terrain.
Ouais.
OK? Puis là, ben après ça, là, ton prochain 6 mois, ben là, ça commence à aller mieux. Là, tu as des références qui commencent à arriver. Puis après 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, là, moi, ça fait plus de 15 ans. Puis là, écoute, je pourrais m'asseoir et dire, bon, ben je vais attendre, mais qu'est-ce que je vais faire?
On va attendre la fin du monde.
Ouais, c'est ça. Mais.
Sur 100 étudiants qui s'en vont dans le monde de l'immobilier, il y en a combien qui réussissent à en faire un travail à long terme?
Ben moi, je dirais, tu sais que le bureau, c'est à moi, là, via oui. Capital Équipe. On a un recrutement extraordinaire. On a doublé depuis... puis ça fait 1 an, là, demain, que je suis propriétaire du... 3 ans, demain, que je suis propriétaire du bureau, excuse. Et puis, on a eu 42 courtiers au début, puis on a presque doublé. On est à 80 quelque chose, là, comme c'est là. Je dirais, là, on réussit à toutes les garder. Il y en a qui font de l'argent, écoute, c'est épouvantable. Puis il y en a d'autres qui sont pas pires, ils font les petites affaires. Ça prend un peu plus de temps, des fois, pour certains. Mais le pourcentage, moi, mon groupe, moi, ma formation là, que j'ai eue, ma cohorte, là, on était un des groupes là, qui est resté le plus de monde, puis on était un 50%, mettons, après 2 ans.
Okay. Okay? Boy.
Puis généralement, là, c'était comme 75 après 1 an, puis 90 après 2 ans qui avaient arrêté.
Donc, il restait 25% après 1 an?
À peu près,
puis
oui.
Puis 10% des individus après 2 ans?
Ben, juste donner une idée, il y a une dame dans mon groupe, elle a passé l'examen et tout, elle a eu comme 98, c'était la meilleure.
Ouais.
elle a eu son permis puis elle a choqué.
Hein?
En partant. Fait que tu viens d'en perdre un de même. Tu vas arriver de l'autre côté puis tu vas avoir des gens qui commencent. À un moment donné, ils aiment ça, mais là, ils sont pas sûrs. Puis là, leur ancien job, là, c'était stable, etc. Ils tombent enceintes, exemple. T'sais, tu peux avoir toutes sortes de d'affaires qui vont arriver. Peut-être des gens qui l'ont simplement pas. Là, on se le cachera pas. Puis même, je parlais récemment, il y a quelques semaines, avec la conjointe d'un gars qui a fait un cours avec moi. Le gars, lui, c'est la partie tempête, un excellent courtier, mais lui, il était dans un autre domaine, puis finalement, il aimait mieux l'autre domaine. Le gars, c'est pas parce qu'il n'avait pas une réussite, là, il aurait pu continuer là-dedans toute sa vie, mais il a tout simplement décidé que lui, il aimait mieux dans quoi il était avant, puis il retournait là.
OK. Puis qu'est-ce qui détermine un bon courtier d'un mauvais?
La passion. Puis le travail que tu vas y mettre, c'est pareil dans tout ça.
Ouais.
Tu sais, moi, là, je suis capable de faire de la mécanique, là, je veux dire, changer un pneu, changer l'huile sur un 4 roues, une moto ou mon auto, mais...
Tu le fais ça encore?
Non, ça me tente pas de faire ça. Tu sais, on se comprend. Ouais, je veux dire, ça me tente pas. Je sais très bien comment faire. Puis je dirais que ce serait sûrement mieux fait plus long que si je vais au garage.
Ouais.
Mais c'est, j'ai pas d'intérêt. Ça me tente pas. Quand j'avais 15 ans, c'était le fun. Là, j'apprenais de quoi, puis... Je voyais de l'évolution là-dedans. À cette heure, ça m'intéresse plus, ces affaires-là.
On donne ça à contrat.
Oui, c'est ça. Ben oui, effectivement. Puis d'un autre côté, ben là, la vie, elle change. C'est que là, il faut que tu trouves le temps d'aller le porter. De...
Oui, c'est ça. T'sais. Mais ce qui détermine... Toi, tu as l'impression que c'est la passion qui détermine si c'est un bon courtier ou si ça ne l'est pas?
Ben, regarde, Yannick, tu m'as demandé...
Parce que les générations changent, hein, Simon? Mm-hmm. Ben oui, puis on va parler de ça, là. Mais les générations changent, puis j'ai l'impression des fois que... Il y a des gens qui peuvent faire un métier payant, parce que tu sais, dans ce cas-ci, c'est un métier qui est payant quand tu travailles extrêmement fort. Pour certains, c'est la passion de l'immobilier. Pour d'autres, c'est la passion de l'argent.
Tu peux pas avoir la passion de quelque chose qui est... T'sais, excuse-moi, là, mais l'argent, là, c'est un billet, c'est un moyen de transition.
Oui, mais ça, okay. C'est correct, parce que à notre âge, on est capable de faire la différence. Mais j'ai l'impression que quand je vois des jeunes courtiers qui font du 100 000, du 150 000, puis eux autres, là, c'est la voiture, c'est le linge, c'est les souliers. Pour eux, c'est encore plus important que ce qu'ils font comme métier. Tandis qu'à toi, à l'inverse, t'as une passion pour ce métier-là, t'as la base des affaires, puis c'est ce qui fait en sorte que tu restes dans ce domaine-là, parce que tu dis, regarde, moi, l'argent n'a plus vraiment d'importance. Ah, mais c'est continuer à faire bâtir mon entreprise.
À la base, c'est sûr que tu vois des objets quand t'es petit, puis tu veux avoir ces choses-là, mais l'idée dans tout ça, c'est que, comment dire... Moi, je voulais avoir des choses. Mais avec le temps, tu t'aperçois que tu seras pas plus heureux quand même que tu auras 25 affaires. Là. Ça change rien, ça. Puis l'exemple que je donne toujours, c'est que aujourd'hui, on va mettre 10 billets de 100$ sur la table. Là, l'hiver est là. Et bien là, il pleut, là, en tout cas. Il neige, puis il pleut, puis il fait plus froid. Là, mais on s'en va vers l'hiver. Fait que l'important, c'est d'avoir une maison chaude. On va mettre 10 billets de 100$. Puis je vais te dire, Yannick, avec ces 10 billets-là, faut que tu isoles ta maison. Tu vas faire quoi? Tu prendras pas une broche puis tu vas y coller sur le mur te disant que ça va isoler ta maison. Mais si tu vas acheter pour 1 000 piastres de laine chez Canac, ça se peut que tu isoles ta maison. On se comprend?
Ouais.
Fait que c'est un moyen de transition. Je te montre une photo, tu regardes ça, tu dis ouais, Bora Bora, ça a l'air pas pire. Correct? Qu'est-ce que ça te prend pour aller là-bas? Ça te prend de l'argent, c'est un billet de transition. C'est ce que ça prend. C'est comme si tu vas aller voir un show au Centre Vidéotron, ben. Je peux te montrer le billet, il est en carton. Là. C'est marqué 150$ dessus. Ça te prend les billets de transition pour te rendre là. L'argent, c'est juste ça. L'argent, ça n'a pas de valeur. C'est du temps que tu vas échanger contre tes billets de transition. Puis après ça, ben, tu vas arriver à pouvoir t'acheter ta nourriture, du linge, des biens, du divertissement. C'est ça qui arrive. Mais les gens, ils ne voient pas ça comme ça. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu as les billets de transition, c'est-à-dire l'argent en poche, bien... C'est pour ça que c'est important d'investir en immobilier, c'est que cet argent-là, avec l'inflation, a perdu de la valeur. Fait que l'idée est quand même que tu aurais 28 millions dans ton compte de banque. Si tu le prends aujourd'hui, puis tu le laisses là, puis tu le dis, moi, je vais le laisser à mes petits-enfants, bien, tu vas peut-être te retrouver à acheter une camionnette F-150 rendue là, quand ils vont être rendus à 18 ans, parce que l'inflation fait le travail. Fait que l'idée de l'argent, c'est travail, il ne faut pas que tu en manques. C'est juste ça l'idée. Moi, je ne veux jamais manquer d'argent. Mais mon idée, ce n'est pas d'avoir... 100 milliards, puis Bill Gates, puis tout ça, là, oublie ça, j'ai aucun intérêt envers ça. Moi, ce que je veux, c'est quand j'étais petit, I wanted to have fun, man. Moi, je veux me faire du fun, puis je m'en fais tous les jours quand je vais travailler, puis c'est ça qui est important.
Mais c'est ça. T'as pas l'argent comme motivation. J'ai l'impression que les gens qui ont l'argent comme motivation, ça va durer un certain temps, mm-hmm. tout simplement. Tandis que les gens qui ont d'autres priorités que l'argent, eux peuvent évoluer dans ce métier-là, puis faire ça jusqu'à temps qu'ils soient tannés d'en faire, là.
Ah, exact. Ben oui.
Parce qu'ils vont toujours aimer ça, en fait, là.
Ben oui, absolument. Okay. Puis je vais dire, moi, ce que j'aime, là, ça a l'air trop à dire, je fais mon métier, je vois les clients, tout ça, puis la fin, l'accomplissement, tout ça, bon, là, j'ai récolté mes commissions, tout le monde alentour de moi est content. Puis à un moment donné, je peux m'acheter une bâtisse. C'est pas qu'est-ce que la bâtisse, elle achète. C'est comme si j'étais au Monopoly, puis je mettais une maison sur l'avenue du parc. Je suis content d'avoir mis la maison. Ça se peut que personne passe dessus du jeu, on se comprend?
Ouais.
J'ai payé pourtant pour la maison. Moi, j'ai déjà acheté des terrains, des immeubles, puis là, je me dis, bon, tu sais, c'est correct, finalement, il y a une réparation à faire là, etc. Je regarde au bout de 5 ans, 10 ans, et j'ai pas nécessairement fait de l'argent avec ça. Oui, ça va venir plus tard, mais moi, j'aime ça, ça me passionne. OK, je pourrais plus prendre des risques, puis dire, ben, exemple, quelqu'un, il aurait acheté une action de Tesla, là, ça a baissé un peu, mais il y a 8 ans, écoute, il aurait fait bien plus d'argent que n'importe quoi. Je pense que j'ai lu, ça a fait 17 000%. 17 000. Tu incroyable. Mettais une pièce, c'est 17 000. Fait que quelqu'un qui arrivait, il mettait 100 000, tu faisais 17 000 fois 100 000. Tu pensais?
Non, tu peux prendre ta retraite.
Ben là, ta retraite, t'as même plus les projets, ils se font tout seuls.
Il n'y a plus de trouble. Hey, je vous rappelle que ce soir, vous êtes. Ben, merci d'être sur les zones de Boulevard, mais on est avec Simon Laberge. Puis on parle d'immobilier, mais aussi on parle de plein d'autres sujets au travers. Restez là, on fait une courte pause et on revient.
Marceau, le soir. Le soir. À Boulevard 102.1, on aime bien ça le temps des fêtes. Le bon temps avec nos chums, puis la famille, la bonne bouffe, les cafés avec un petit plus dedans.
Pour se rendre là, on lance un décompte. Le calendrier de l'Avent Boulevard. 24 jours de cadeaux, gracieuseté des Cafés Sobab.
Chaque après-midi, il y a un chanceux ou une chanceuse qui va gagner son cadeau Café Sobab. Machine à espresso, accessoires, très grande variété de cafés. Avec les Cafés Sobab, vous trouverez le bon cadeau à tout coup. Boulevard 102.1 vous souhaite un Noël noir, bien torréfié.
Vous aimeriez obtenir votre pardon au waiver, mais c'est difficile financièrement? Aucun souci. Identité Québec offre le financement 12 mois sans intérêt. IdentitéQuébec.ca. Votre dossier, notre spécialité.
Laura Secor, votre destination cadeau pour des fêtes réussies. Faites plaisir à tout le monde avec nos fameuses boîtes personnalisables et nos délicieux chocolats signature. Pour vos cadeaux des fêtes...
Laura Secor. Confier son projet à Simard Cuisine et Salle de bain, c'est s'assurer d'un accompagnement et d'une prise en charge par une équipe experte et passionnée depuis 55 ans. Votre projet sur mesure sera créé, fabriqué et installé sans compromis sur la qualité et ce, dans le respect de vos besoins et de votre budget. Aucune raison d'aller ailleurs. De plus, jusqu'au 4 décembre, vous courez la chance de gagner l'une des 10 cartes cadeaux de 2 000 $ pour la réalisation de votre projet. Tous les détails et inscriptions au simardcuisine.com.
Stéphanie travaille sur mon chantier. C'est une travailleuse de la construction. Mais c'est aussi la blonde de Mathéo, la mère de Noah, la fille de Normand et Lucie, la petite fille de Yolande et Maurice, et la meilleure amie de Catherine. Si elle devait tomber du toit où elle travaille, ce sont toutes ces Stéphanie qui tomberaient avec elle.
Au travail, votre santé et votre sécurité comptent pour vos proches et pour tous ceux qui vous aiment. Employeurs, travailleuses et travailleurs, identifions les risques et agissons ensemble pour les éliminer. Un message de la CNESST.
Les fêtes sont plus festives que jamais au Salon de jeux de Québec. Promotion DJ et groupes musicaux vous attendent en décembre. Le Salon de jeux de Québec, une expérience Loto-Québec. 18 ans ou plus, le jeu doit rester un jeu.
Pour votre prochain brunch, pensez Birabasta. On vous propose un tout nouveau menu déjeuner les week-ends dès 9h. Pizza déjeuner, œufs bénédictines, mimosa à volonté, tout pour un brunch des plus festifs. On se voit ce week-end. Réservez sur notre page Facebook Birabasta, 802 rue Saint-Joseph-Est.
Boulevard 102. L'information.
News and entertainment.
Du gros fun.
Aïe, aïe, aïe!
C'est tout le temps de même.
Puis du rock. Boulevard 100% Québec.
102.1.
C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Le soir. 102.1.
Vous êtes sur les zones de Boulevard. Ce soir, mon invité, Simon Laberge. Bien entendu qu'on parle de courtier immobilier, on parle d'immeubles, mais on parle de plein d'autres sujets. Puis tu parlais du risque tantôt, puis je trouve ça formidable, ce mot-là, risque, parce qu'il y a des gens qui vont toujours fuir ce mot-là, puis il y a des gens qui vont toujours jouer avec ce mot-là. Toi, tu sembles être... Tu sais, le mot « risque », ça semble pas te faire peur. Pour quelqu'un qui souffre peut-être d'insécurité, dès qu'il entend « risque », il y a des boutons qui y poussent. Qu'est-ce qui fait en sorte que t'es un peu kamikaze là-dedans?
Ben, premièrement, je prendrais pas un risque qui serait pas, on va dire, calculé.
Ouais.
Comment je pourrais dire... Tu me disais, hey, Simon, écoute, j'ai une entreprise là, quelconque qui... ça s'est jamais vu, là, mais il n'y a même pas 1% des chances que ça réussisse. Veux-tu embarquer là-dedans? Bien, probablement, ça ne me passionnera sûrement pas, fait que je ne le ferai pas.
Mm-hmm.
Puis ce que je vais, entre guillemets, risquer, bien, c'est sûr ça va fonctionner parce que c'est toujours quelque chose que je crois vraiment puis que je sais que je vais me donner à fond. Parce que, qu'importe les décisions que je prends, c'est souvent, puis presque toujours, des investissements en immobilier. Il n'y a pas personne qui fait de la pub comme moi à radio, mettons. Là.
Non, tu es partout. Bon,
c'est ça. Mais il y a un risque à ça parce que c'est extrême, les dépenses, c'est super cher. Mais j'ai une passion aussi envers la radio. J'aime ça venir jaser avec toi ici. Je le fais dans d'autres stations. Je trouve ça le fun parce que je le fais souvent de méthode éducative. Puis tu sais, je ne suis pas payé pour ça, je ne serais pas obligé de venir. Puis d'un autre côté, ben, ça va en même temps me rapporter des clients. Puis je m'en fais souvent parler. Puis ils trippent, on aime ça t'entendre. Puis on sait aux heures que tu passes. Puis on s'intonise la station. Puis on ne veut pas le manquer. Alors ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est quelque chose que j'aime. Puis ça me passionne. Mais si moi, tu me parles d'une entreprise que je suis pas à l'aise, OK? J'aime pas ça. Bon, là, on sait, exemple, c'est la mode des voitures électriques. Tantôt, je disais, j'aime les voitures. Ben moi, les voitures électriques, je trouve ça le fun. Une belle petite citadine, quelqu'un qui est retraité, qui a à faire un 25, 30, 40, 50 km dans sa journée,
mm-hmm.
C'est parfait. Moi, ça me fait pas triper, ça. Présentement, tu pourrais investir dans le nickel, mon gars, là, les actions, ça monte, puis tout va bien. Moi, ça m'intéresse pas. Ben ça, je vais trouver ça plus un risque.
Fait que toi, c'est un risque calculé.
Oui, c'est ça, parce qu'à la limite, je vais juste mettre plus d'efforts. Écoute, j'ai déjà acheté des immeubles, là, à un moment donné, les locataires, on a jasé avec eux autres, sont partis, on a tout rénové. Là, des temps kayak, là, il y en avait pas mal plus que ce que j'avais pensé. Là, je me grattais un peu la tête. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai travaillé, comme que je fais d'habitude, puis j'ai subvenu aux besoins de l'immeuble. On a renversé la vapeur, puis tout s'est bien passé. Mais si je m'aurais tracassé, puis j'aurais arrêté, je savais que ça pouvait arriver. J'imaginais pas ça aussi grand que ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai passé au travers. Parce que le risque, si tu as du momentum, là, prends un train là, qui roule à, je sais pas, mettons, 50-100 km/h, tu essaieras de l'arrêter. Là. Et ça prend plus qu'une petite bûche à terre. Là.
T'as-tu déjà eu des défaites?
Des défaites?
Mmh.
Ça, j'ai déjà eu cette question-là. Là. Puis moi, j'apprends de chacune des expériences que j'ai. Puis je trouve ça comique parce que je sais pas si tu te rappelles, j'avais vu le ring de l'immobilier, puis je pense qu'ils m'ont posé la question 8 fois d'un côté ou de l'autre. J'apprends toujours de ce qui se passe, tout le temps. Puis je vois la meilleure façon d'apprendre, c'est avec les erreurs des autres.
Mm-hmm.
T'es mieux justement d'apprendre des erreurs des autres que des tiennes. Fait que moi, quand les gens ils me parlent, j'écoute beaucoup. Avant de m'aventurer sur un sujet, j'ai eu des discussions là, récemment avec des gens, puis là, d'un coup, on sort de la réunion, puis ils disent, écoute, t'étais pas à l'aise, ça? Je dis, ben non, j'ai dit, là, moi, j'écoute, là, j'ai dit, il faut que j'apprenne là-dessus. J'ai dit, je connais le sujet de base, mais ça, c'est pointu, fait que j'aime mieux écouter. Puis après ça, ben, j'ai des questions à poser à la fin. Puis ça, ça prouve que tu dis pas n'importe quoi, n'importe quand.
Mm-hmm.
Parce que si tu fais ça, ça te mène nulle part dans la vie. Fait que moi, j'aime mieux profiter de l'expérience des autres. Fait que si, exemple, toi, Yannick, tu me dis, regarde, Simon, je vais te faire faire le tour du studio, puis je vais t'expliquer chaque console. Je ne commencerai pas à dire, ah ben oui, ça, c'est un bouton. J'en connais un ou deux, mais crème, il y en a 78. On se comprend?
Mm.
Fait que moi, je vais écouter, puis je vais apprendre de ton expérience à toi. Ça ne me tente pas d'arriver de m'installer à la console, puis faire une erreur, puis penser que j'ai fermé la console, puis tout le monde entend, ou on pense que c'est parti, finalement, puis la station, elle l'aimait pas, là.
Tu me stresses, là, je regardais si on est en onde.
Puis le pire en plus, c'est que j'ai de voir tes yeux une fois.
Es-tu en onde? Ça serait bien mon genre de parler de ça avec les micros fermés. OK, mais t'es jamais allé nulle part puis te dire « OK, là, je viens de pogner mon mur, je suis vraiment pas à bonne place. » Oui, t'apprends des affaires, mais tu dis « Non, t'as peu, là, faut vraiment que je me retire de là. »
Ben, je vais manœuvrer, puis je vais m'en... Comment je pourrais dire? Je pourrais pas dire « C'est une défaite, j'ai appris de... » Tu sais, t'as déjà... Je sais que t'aimes ça, t'as un 4 roues, puis un Jeep, puis tout ça. Tu dois aller dans le bois, des fois, t'es passé quelque part, t'es resté pris. C'est une défaite, non, parce qu'en bout de ligne, t'es sorti gagnant. T'es pas encore dans le trou de vase, là.
Non.
On se comprend? Bon, ben ça m'est déjà arrivé, moi aussi, là, à aller faire des aventures comme ça, puis là, t'es là pendant une heure, tu travailles, mais tu vas t'en sortir, t'as appris, t'es gagnant de ça.
Ouais.
Moi, je vois pas ça comme une défaite, parce que j'ai pas abandonné le projet-là. On se comprend?
Mais okay. Ben, j'ai l'impression que les gens qui risquent jamais rien sont morts en dedans. Ben oui. Peut-être qu'ils sont bien comme ça, là, mais j'ai l'impression que quand on risque des choses, on arrive à des places qu'on n'avait pas prévues qui sont vraiment pas mal plus cool que si on était resté assis sur nos deux mains à rien faire.
Exactement.
Je comprends pas pourquoi il y a des gens qui restent dans leur zone de confort tout en étant quand même tristes de leur sort en disant « Ah ben, j'ai des capacités que je pense supérieures à celles que j'ai actuellement. Je les exploite pas, mais au moins j'ai un toit sur la tête et tout ça. » J'ai pas l'impression que ces gens-là complice. Puis qu'un jour, ça se peut que... Puis on voit souvent ça, là, des gars qui arrivent à 40 ou 50 ans, qui font un bilan de leur vie puis qui s'aperçoivent que, oh boy, la maison, c'est pas cette maison-là que je voulais. J'aurais aimé ça me partir en entreprise. Boum, je me sors en entreprise. Ou, oh boy, cette fille-là, non, c'est finalement, je veux pas passer le restant de ma vie. À 40 ou 50 ans, on voit souvent ça. Mais c'est des gens qui ont tout le temps fui cette zone-là du risque, là, tu sais. Puis vous avez perdu combien d'années de vos vies?
Oui, bien ça, des fois, j'ai des gens justement que j'ai l'occasion de discuter et me disent « Ah, moi, j'aurais fait comme toi, t'as encore le temps. » Il y en a qui commencent des carrières, le colonel...
Sanders.
Sanders. C'était quel âge? En tout cas, retraité, 60, 70 ans, je ne sais pas l'âge exact. Là. C'était, mettons, j'ai lu ça quelque part rapidement, là. C'était pas mon idole, j'ai pas tout lu la biographie. Mais le gars, il est retraité de l'armée, il veut vendre sa recette, puis il n'y a personne qui veut de sa recette. Ben, il dit, garde, écoute, je vais le partir, le restaurant. Ben, ce ne sera pas compliqué.
Il a réussi.
Ben oui, regarde, il y a un fil dans le coin du boulevard Amel. Ça va à 2 km plus loin pour aller chercher du poulet frit Kentucky. C'est fou.
Mais le risque, j'ai l'impression que c'est un mot qui est lourd de sens pour certains individus. Puis, tu sais, il y a des gens qui nous écoutent dans leur véhicule ce soir, qui t'entendent, qui disent, ben ouais, Simon, il en a fait des affaires différentes, puis c'est un gars qui a le goût du risque, mais c'est parce que tu as le goût du risque. Ça fait en sorte que tu es devenu le gars que tu es devenu aujourd'hui. Puis
je ne me rends pas compte s'il y a un risque. Là. Pas du tout. Là. Moi, j'arrive, je me lève un matin puis je me dis, OK, ouais, c'est vrai, ça serait une bonne idée. Je le fais. Je me casse pas la tête.
Non.
C'est pas une idée farfelue. Là. Je veux dire, j'irais pas faire le funambulisme avec une baguette, là, ne serait-ce que 10 pieds dans les airs.
Ben, je pourrais aller t'aider. En tout cas, je filmerais. Là.
Ouais. Non, bon, on se comprend. C'est pas le genre de risque qui m'intéresse.
Ouais.
OK? Fait que... Je vais te dire que dans la vie de quelqu'un, ses plus grandes défaites, c'est ce qu'il n'entreprend pas. OK? Je ne dis pas de faire n'importe quoi puis des choses qui ne mettent pas de sens ou illégales, mais c'est des choses qu'ils n'entreprennent pas. Tu sais, le matin, là, tu peux arriver puis c'est dimanche, je suis confortable dans mon lit, je vais me lever à 11 heures. Pas trop mon style. Là. OK? Non. Lève-toi le matin, entreprends quelque chose de différent. Tu sais, toi, tu pars avec tes kids, tu dis « Hey, les gars, ouais, let's go. Demain, on se lève à 7 heures, puis on mange, puis à 8 heures, on est dans le char, puis on s'en va monter telle montagne, puis... Ah, mais papa, on est trop petit. » Il n'y en a pas d'âge pour
ça. Va pareil. Sauf que moi, je me lève à 5h15.
Ouais, je sais.
Et le soir à 10h, tu m'appelles pour savoir qu'est-ce que je fais.
Mais eux, ben c'est ça, parce que tu comprends-tu que c'est à peu près pareil pour moi dans ce cas-là.
T'as plus d'énergie que moi.
Mais c'est ça pareil. Tu sais, j'ai été au Costa Rica avec un de mes amis, puis là, il y a deux. Il y a 3 enfants, mais il y a deux petits gars de 10 ans, qui est à peu près l'âge de ton fils qui a 9, des jumeaux. Puis là, il y en a un plus 15 ans. Fait que, tu sais, là, lui, il était plus. Il fallait qu'il parle avec son père. Moi, j'étais avec les deux jeunes. Let's go, les jeunes, let's go. Puis là, eux autres, c'était le fun parce qu'eux, ils voulaient aller plus vite que moi. Ils voulaient me battre. Tu sais, on faisait tous les volcans, les montagnes là-bas. Ouais. Puis, tu sais, des gros hikes, puis tout ça. Fait que là, un moment donné, ils étaient fatigués, puis tout ça. J'ai dit, voyons, les gars, j'ai dit, vous êtes en arrière de moi. Là, ils sont là. Ah ouais, là, ils se crinquent entre eux autres. Deux jumeaux, t'as-tu pensé, là? Pareil, la même âge, puis tu te demandes c'est lequel, là, des fois. Là, ils partent à courir. Puis là, ben, j'ai laissé prendre le chemin. Puis là, un moment donné, j'arrivais. Tu pensais, j'arrivais toujours avant eux autres pareil.
Mmh. Ah, ils vont se souvenir de ça toute leur vie.
Ils ont du gaz.
Ouais.
Là, j'ai craqué, puis j'ai motivé. Puis c'était le fun. Mais si on avait décidé de dire, ah, ben là, ils sont trop jeunes, on n'ira pas. Il était là.
Il n'aurait jamais rien vécu.
Ben oui, ils ont marché 1000 pieds, puis papa, c'était trop compliqué. Là, ouais.
Hey, c'est le temps des fêtes. Simon, les entreprises sont extrêmement sollicitées pour offrir des dons à des gens qui sont moins bien nantis. Moi, ce que je trouve formidable de la part d'équipe Laberge, parce que tu n'es pas seul là-dedans. Oui, tu es Simon Laberge, mais tu as une équipe qui est avec toi. Tu as Vieux Capital Équipe aussi qui t'appartient, le bureau t'appartient. Vous donnez régulièrement, mois après mois, à des organismes de charité. L'Aube-Rivière, entre autres, là, avec John Éric Boulay, vous avez donné de l'argent. Éric Martel-Baouelli qui ramasse des fonds aussi, tu lui en donnes régulièrement. Puis là, ben, écoute, pour le mois de décembre, tu fais pas abstraction de ça. Là. Tu t'es dit, tiens, je rembarque dans ces donations-là, puis tu as une promotion. Là.
Exact. Ben, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on a un organisme, des gens ou des clients qui nous demandent, hey, peux-tu donner un montant pour tel organisme ou quelque chose comme ça? Mais beaucoup d'organismes qui nous appellent. Puis là, j'ai décidé d'impliquer les clients là-dedans. Fait que, à partir de maintenant, jusqu'au 31 décembre, chaque client qui va nous confier sa propriété à vendre, OK? Faut que ce soit une vraie fondation, on s'entend, là.
Ouais.
On donne 500$ à la fondation de son choix. Fait que si quelqu'un dit, bon, ben moi, c'est les enfants. Puis
Enfant
ça,
soleil, mettons.
Enfant soleil, je veux que tu donnes 500$. Nous, on remet 500$ à Enfant soleil, voir la preuve de tout ça. Et puis, d'un autre côté, tu vas avoir, je sais pas, là, son beau-frère, il a eu des problèmes de consommation. Jean Lapointe, moi, c'est là, je veux que tu envoies ça. Moi, je veux que ce soit pour les jeunes sportifs d'un petit village en quelque part, mais c'est une vraie fondation qui existe. On va donner 500$ à la fondation. C'est au choix du client. Puis ça, c'est extraordinaire parce que présentement, avec l'économie, l'inflation, on a une genre de récession là, qui n'est pas confirmée, mais on s'en rend compte. Il y a du monde qui manque de toutes sortes d'affaires. OK? Puis ça peut être autant au niveau de quoi manger que de l'aide, qu'importe c'est quoi. Bien, nous, on est là pour on veut s'impliquer puis de redonner aux gens. On est chanceux, on a une business qui roule.
Oui.
On a fait des dernières années extraordinaires. Et puis, on a à chaque transaction, nous, un montant qui est remis dans un fonds pour ça. Puis j'espère, à la fin du mois de décembre, avoir d'en remettre de ma poche pour combler ça. Si ça arrive, ça va être extraordinaire. Et puis, ça fait que chaque personne qui nous confie sa maison, on donne 500$ à la fondation de son choix. Ça, c'est vraiment hot. Là. Puis,
félicitations de le faire. Vous n'êtes pas obligé de le faire, puis vous le faites régulièrement. Puis, puisque tu es là, j'ai une idée qui m'arrive à l'esprit. Là. Moi, j'ai commencé avec mon chum Jocelyn Lusignan, que vous avez entendu sur les ondes de Boulevard il y a quelques jours, des donations de cartes d'épicerie.
Mm-hmm.
Un jour, on trouvera un nom un peu plus pertinent là, à ce qu'on met en place, mais ce qu'on fait, puis je l'ai fait l'an passé, puis tu sais quoi, peut-être que tu sauras me dire la même chose que je suis en train de te dire là, mais j'ai l'impression que j'ai reçu beaucoup plus que j'ai donné l'an passé, parce que j'ai vécu des expériences de vie par rapport à ces cartes-là. C'est des cartes de 150$ d'épicerie qu'on remet aux familles autour du 20 décembre. Et notre objectif, c'est que ces gens-là puissent faire leur épicerie pour qu'il n'y ait pas beaucoup de problèmes d'approvisionnement en nourriture pendant le temps des fêtes.
Mm-hmm.
T'sais, on sait que quand on vieillit, là, les choses qui se sont passées pendant notre temps des fêtes, on s'en souvient. Bien, si on peut faire une différence dans la vie de ces familles-là au niveau de l'épicerie puis au niveau des petites gâteries qu'on peut acheter pour les enfants, bien, on le fait. Notre objectif cette année, c'est une centaine de cartes. Donc, une centaine de cartes à 150$. Que je pense que c'est Maxi là, qu'on va acheter cette année, là, parce qu'avec Maxi, ils ont plusieurs autres épiceries avec lesquelles ils peuvent aller. Puis moi, ce que je vais faire, puis je t'invite à venir avec moi, parce que tu vas trouver ça franchement intéressant, mais il faut que tu participes, c'est de venir porter avec moi les cartes à ces familles-là qui vont juste apprécier qu'on leur donne ces cartes-là. Puis je te le demande, si t'as cette gentillesse-là de participer à notre truc de cartes qu'on veut faire. Puis j'aimerais ça en même temps que tu viennes avec moi, t'embarques dans mon Wrangler, puis que tu viennes livrer les cartes avec moi pour que tu vois à quel point on est capable de changer la vie de certains individus pendant un certain temps.
Ben écoute, moi, tu me dis que tu as besoin de 100 cartes. Je ferais 10%, mettons, 10 cartes, ça aurait-tu du sens, ça?
10 cartes? Là, 10. Ça veut dire, on va calculer rapidement, là, ça veut dire 1500$?
1500$.
Fait qu'on serait déjà rendu à 10% de notre objectif grâce à simonlaberge.com et toute son équipe Laberge. Ben, c'est accepté, mon ami.
C'est moi le premier à donner, quoi?
Ben là, oui, t'es le premier à donner. Il y a d'autres entreprises qui veulent embarquer dans l'aventure, mais là, je suis rendu à 10% de notre objectif. Puis je vais tenir les auditeurs au courant. Puis d'ailleurs, s'ils veulent en savoir plus sur ce qu'on est en train de mettre en place, juste communiquer avec moi par Messenger. Puis ça va me faire un plaisir de vous expliquer comment ça va fonctionner. Puis si vous voulez aller porter vous-même votre carte à une famille, bien, je vais avoir un nom et une adresse pour vous autres. Puis si vous êtes une famille qui avait besoin justement de ces épiceries-là, vous pouvez communiquer avec moi aussi par Messenger Yannick Marceau. SimonLaberge.com, c'est toujours un plaisir. Pour vendre ou racheter, c'est SimonLaberge.com. Un gros merci de ta donation. Puis ben, je te félicite pour la personne que t'es. T'es un maudit bon gars. Puis on se refait ça dans une couple de mois.
Super, ben c'est moi qui te remercie, Yannick, pour l'invitation.
Salut mon ami.
Bye.
Marceau, le soir. Le soir.
As-tu attendu à Commère?
Ben oui, elle me l'a dit. Et hey, puis tu sais pas quoi.
Ben voyons donc.
Ben oui, la Commère Magasin Général, le nouveau magasin dont tout le monde parle à Québec. C'est le plus beau coin bonbon de jouets vintage. Et pour les fans finis de Noël, c'est la meilleure place pour choisir vos cadeaux et remplir vos bas de Noël. Jusqu'au fait, ouvert 7 jours sur 7 et en soirée du lundi au vendredi. La Commère Magasin Général, au Méga Centre Le Bourgneuf, près du Winners. Lacommère.ca.